Bonsoir, 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 voilà. Eh bien, controverse, controverse, l'émission politique, la grande émission mensuelle de Radio Armada, la survivante de la politique de la Radio Armada, tous les mois, le troisième vendredi du mois, le troisième mercredi du mois, ça y est, ça commence mal, il est temps que l'année se finisse. Bon. Politique sociale, actualité du moment. Et là, donc, pour ce 16 décembre, on va se faire une petite rétro. Une petite rétro, donc, politique, sociale, culturelle, historique de cette année. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vous rappelle que, donc, tous les appels, d'ailleurs je m'aperçois, voilà, on est en plein en direct, hein. En plus j'arrive en retard parce que j'étais dans les bouchons. Je récupère mon amie Nadia, j'espère qu'on va la voir en vidéo. Mon amie Nadia qui est maintenant incontournable de cette émission, Nadia qui est donc conseillère municipale déléguée sur la ville de Villejuif. Donc je dois appeler des gens. Alors pour appeler des gens, il faut que j'ai mon téléphone, alors je vous annonce tout de suite, je l'ai oublié dans ma bagnole. Donc j'irai le chercher tout à l'heure. Et puis pour que les gens m'appellent sur le 09 77 38 05 23, ils me font un téléphone d'appel que je n'ai pas. Voilà, donc il n'y a pas de problème. L'émission, elle est top. On va se débrouiller. Notre ami Alassane, qui est à la manœuvre, de toute façon, va me régler tout ça. Voilà. Alors, à mon avis, la raison pour laquelle tout ça chaote un petit peu, c'est que le directeur de la radio est là, Rabat. Et donc je pense qu'il émeut tout le monde, il provoque une certaine émotion dans le studio, et donc tout le monde se dit, voilà, Rabat étant là, on ne sait plus quoi faire, donc on panique, voilà. Donc mon ami Rabat, merci d'être là, mais bon, rassure tout le monde, tout va bien se passer. Voilà, Nadia, tu vas bien ?
Oui.
Parle dans le micro, ma chère Nadia, voilà. Alors, est-ce qu'on peut brancher le micro à Nadia ? Parce que si on n'entend pas Nadia, l'émission est perdue. Voilà. Nadia, vas-y.
Salut, Jean-Pascal.
Ouais, tu vas bien, Nadia ?
Ouais, trop contente de te voir.
Bon, écoute, c'était pas prévu, mais non. Je t'avais demandé de venir. Et puis finalement, je suis bien content que tu sois là.
Ben voilà. Parce que je te soutiens à 200%.
Sans toi, Radio Armada ne serait pas ce qu'elle est.
Voilà. Ah ben, c'est très gentil.
Et controverse encore moins.
Voilà. Ah ben voilà, t'as tout mon soutien, tu
Alors écoutez, si notre ami Alassane peut me régler le problème du téléphone pour que je puisse avoir des appels, donc je ne sais pas, là il est en grande discussion avec le patron, il est peut-être en train de se faire virer, donc j'en sais rien. Bon, non, il ne se fait pas virer, Rabat me rassure, Alassane est toujours là. Donc est-ce qu'on peut avoir le téléphone pour que les gens m'appellent au moment venu ? Oui, d'accord, il me dit oui. Donc, s'il me dit oui, c'est que c'est bon. Hein. Voilà, faut considérer. Alors, écoutez, peut-être que pour commencer, on va parler de la solidarité avec les artistes et les lieux culturels. Donc, cette année a été marquée par un événement, effectivement, imprévu. Mais pas tant imprévu que ça, parce que finalement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis la mi-mars, donc pandémie... qui d'ailleurs, je vous le rappelle, était prévu depuis le mois de janvier, voire même depuis le mois de novembre 2019. On sait tous que les prémices de la pandémie avaient été annoncées, mais évidemment, nos chers gouvernants, qui savent tout mieux que tout le monde, nous ont dit « vous inquiétez pas ». Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple l'émission Quotidien, on voit Olivier Véran, ministre de la Santé, qui dit « le port du masque n'est pas recommandé ». Donc aujourd'hui, on a le masque. D'ailleurs, vous voyez, on a tous notre masque. Et dès qu'on sort d'ici, on se le met. Voilà. Même pour faire des bisous à Nadia, je suis obligé de mettre un masque. ce qui, d'ailleurs, me pose un gros, gros problème parce que ça me frustre. Mais bon, voilà. On se rattrapera quand la pandémie sera terminée. Alors, donc, solidarité avec les artistes et les lieux culturels. Parce que, évidemment, parmi les grandes victimes de cette pandémie, on a effectivement les restaurateurs, les cafetiers. Ils sont obligés de fermer, et donc effectivement, il ne se passe rien. Mais on a aussi les lieux de culture, les artistes, les théâtres, les comédiens, les écrivains, les librairies. Tout ça est fermé, tout ça est confiné, tout ça est interdit de fonctionnement. les théâtres sont fermés alors qu'on sait très bien que finalement les conditions de sécurité sanitaire sont plus rassurantes dans un théâtre où on assoit les gens tous les trois places, on nettoie, on aère et tout ça, que dans un centre commercial où tous les gens se pressent, ou encore moins dans le métro, où de toute façon les gens aux heures de pointe, alors les heures de pointe, il faut que vous le sachiez, chers amis, pour ceux qui ne pratiquent pas le métro, ce n'est plus 18h, ce n'est plus 8h du matin, mais c'est aujourd'hui 9h du matin, parce que les gens partent plus tard et rentrent plus tôt. Donc à 17h dans le métro, c'est l'heure de pointe. Et on est tous serrés les uns contre les autres. Bien sûr, on a des masques, mais bon, de toute façon, on se touche, on se serre les uns contre les autres. Donc de toute façon, il y a une espèce d'ineptie de la gestion de cette crise dont on pourrait faire une émission rien qu'avec ce thème-là. Mais ce n'est pas l'objet. Voilà. Alors, nous sommes évidemment, nous, Radio Armada, médias politiques, médias sociaux, mais médias culturels, totalement solidaires de ce qui se passe. Et d'ailleurs, si l'un de vous nous écoute, acteur, libraire, écrivain, comédien, n'hésitez pas à nous appeler. Vous nous appelez sur le 09 77 38 05 23. On vous prendra. Je pense que je vais avoir le téléphone sous peu. Et donc, on vous prendra au téléphone sans problème pour entendre votre témoignage. Parmi les autres, je dirais, institutions qui sont aujourd'hui touchées par le Covid, ce sont les hôpitaux. Les hôpitaux qui aujourd'hui sont menacés par le Covid sont sollicités par effectivement un afflux massif de patients. Et aujourd'hui, contrairement aux annonces qui ont été faites par nos chers gouvernants, il n'y a pas du tout de postes supplémentaires. On apprend, d'ailleurs ça date d'hier aux infos, on apprend que la prime de 1 500 € qui avait été promise aux soignants a été attribuée aux soignants, a été attribuée au personnel administratif de l'hôpital et des hôpitaux. Bon, ça, je veux dire, on a beau être dans les bureaux et ne pas être touché par le contact Covid, de toute façon on est touché. Alors écoutez, apparemment le numéro a changé. Donc ça serait le 07 49 39 53 64. Alors, il va vraiment falloir que j'aille chercher mon téléphone parce que mon premier invité, je lui avais donné le numéro 09 77 38 05 23. Donc, effectivement, il va avoir un peu de mal à m'appeler. Alassane, fais-moi signe. Si la personne compose le 09 77 38 05 23, il tombe sur rien du tout. D'accord, bon. Alors, Fabien, qui doit nous appeler tout à l'heure, sache que si tu composes le 09, 77, etc., ben, personne ne te répondra. Donc, écoute, dès que je pourrai aller chercher mon téléphone, je vais t'appeler, et puis on va essayer de se connecter. Voilà. C'est comme ça, c'est le direct, c'est les joies du direct, c'est les joies de Radio Armada, radio bénévole, radio militante. Et donc, ben, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, on le fait bien. Alors, les hôpitaux, ben, écoutez, on va aller dans l'Essonne. Et aujourd'hui, il y a aujourd'hui un mouvement des hôpitaux du Nord-Essonne, et notamment qui s'inquiète de l'état de l'hôpital de Juvisy. Alors Juvisy, il faut savoir que c'est à la porte de l'Essonne, c'est juste en arrivant par la Nationale 7, donc on arrive de Villejuif, hein, vous connaissez, donc on prend la Nationale, on passe la Belle Épine, on arrive à Athis-Mons, et dès qu'on a passé Athis-Mons, on arrive à Juvisy. Ben là, il y a un hôpital. Ben figurez-vous que cet hôpital, il est menacé, et donc un comité de défense des hôpitaux du Nord-Essonne nous fait part de l'état exact où se trouve l'hôpital de Juvisy. Cet appel est relayé par l'élu communiste de Draveil, Fabienne Bellet, qui a proposé une motion au vote du conseil municipal de Draveil qui doit avoir lieu cette semaine, si je ne m'abuse. Je crois que c'est demain. Voilà. Alors, il reste exactement à l'hôpital de Juvisy un petit service consacré aux personnes âgées. Des urgences avec 7 lits de porte, c'est-à-dire en attente de transfert des malades vers d'autres sites, un service de radiologie et de scanner, et un étage dédié, je vous le demande, au groupe Corian, qui est un groupe privé pour des soins à domicile, c'est-à-dire que les gens payent le plein tarif et ils ne sont remboursés que pour partie par la Sécu, le reste étant à la charge des mutuelles, quand on a la chance d'avoir une mutuelle. La situation, d'ailleurs, a encore évolué dans le mauvais sens, parce que 50 lits Covid à Juvisy étaient présents lors de la première vague de la pandémie, c'est-à-dire entre mars et juillet, et aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul lit Covid à Juvisy. Alors, La question qui est posée par le comité de défense, c'est où vont les malades ? En 2021, prospective, les bâtiments de l'hôpital public de Juvisy seraient cédés pour la somme de 12 millions d'euros pour financer un hôpital public dans la ville nouvelle de Saclay. Ceci au détriment des Juvisiens et des habitants des villes voisines, dont Draveil, puisque c'est porté par l'élu Draveil, qui seraient dépossédés de leur hôpital public de proximité. Question qui est posée par notre élu, à qui profite le crime ? Réponse, au groupe Korian, exploitant très lucratif des maisons de retraite médicalisées, on connaît Korian, voilà, très présent dans le Val-de-Marne, célèbre pour sa gestion catastrophique de la crise sanitaire et célèbre pour ses prix exorbitants, Korian qui est candidat pour raser l'hôpital de Juvisy et faire un EHPAD. Alors que autant le maire de Draveil que le maire de Juvisy prétendent que l'hôpital ne court aucun danger. Voilà, donc aujourd'hui, nous lançons un cri d'alerte. Le nouveau projet prévoit aussi de construire des pavillons sur le site et à la place de l'hôpital. Alors, donc, la liste d'opposition de gauche à Draveil, dont fait partie notre amie Fabienne Bellet, redemande que le conseil municipal de Draveil se prononce pour le maintien et développement de cet hôpital de proximité et demande, je n'invente rien, à monsieur le préfet de l'Essonne d'agir pour que l'agence régionale de santé et le directeur du groupe hospitalier du Nord-Essonne tirent les conséquences logiques de la crise du Covid et qu'ils organisent le maintien de l'activité de Juvisy, ainsi que des hôpitaux publics d'Orsay et de Longjumeau. Voilà, nous avions promis à notre amie Fabienne Bellet de faire écho de cet appel. C'est chose faite. Avant de passer à la première pause musicale, et qui me permettra donc d'aller chercher mon téléphone, Nadia donc Récris, élue municipale dans la majorité de Villejuif, qu'est-ce que t'inspire cette situation sur l'hôpital, Nadia ? Toi qui connais bien la question de l'hôpital, puisqu'il y a 3 hôpitaux à Villejuif.
Ben, ce que ça m'inspire, je trouve déplorable que ce soit encore pris en otage sous couvert de crise sanitaire. Maintenant, ça va être, on va dire, en tout cas, en sachant à qui profite le crime, on a l'acteur. Maintenant, faut savoir que on prend en otage des patients et des patients qui ont besoin d'être soignés. Et ça reste toujours le grand problème, c'est que on prend pas en considération suffisamment la souffrance des autres. Et à force de vouloir faire des choses par pure spéculation, puisque là il s'agit de spéculation, pour faire du profit. Et moi je le dis, à force de vouloir toujours faire du profit au détriment du bien-être des citoyens, à un moment donné, la cocotte chauffe.
Et tu penses que le couvercle va finir par chauffer ?
Un jour, oui, parce qu'en fait, il faut vraiment maintenant prendre une position où il va falloir ménager la chèvre et le chou, pour la simple et bonne raison que les gens déjà souffrent beaucoup de cette crise sanitaire. Il y aura des causes collatérale à cette crise sanitaire, psychologique, financière, etc. Mais si en plus on va enlever le droit si précieux à un service de santé de qualité, là je pense qu'on commence à toucher à la dignité humaine. Et toucher à la dignité humaine, c'est en quelque sorte un crime.
Oui, c'est un crime contre la dignité.
Donc c'est mon avis là-dessus.
Nadia, merci. Bon, alors, donc, je rappelle que nos invités doivent nous appeler, alors j'espère qu'ils nous écoutent, au 07 49 39 53 64 et non pas au 09, etc. Voilà. Donc, je vous propose que pour illustrer ce premier thème et pour faire notre première pause musicale, on va écouter un titre qui a été sorti par Jean-Jacques Goldman qui rend hommage à tous les soignants. Il s'appelle « Sauver des vies ». On l'écoute, on se retrouve juste après.
Docteur, brancardier, aide-soignant, infirmière, agent de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leurs propres raisons de pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies. Caissière et boueur, un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan, PDG. Auraient très bien pu se mettre en retrait, mais ils pensent têtus qu'ils ont un rôle à jouer. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des bons discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Les cheminots, les militaires, merci à tous ceux que j'oublie, les ambulances, les taxis. Les chercheurs vont trouver, mais ils ont besoin de nous tous. Alors soyez prudents et soyez fiers.
Bon, ben voilà. Alors, on va avoir une petite complication là, mais on va se débrouiller. Hein. Des grands ici dans cette radio, voilà. Donc nous devions avoir Fabien Guillaume Bataille, donc qui est le secrétaire départemental du Parti communiste du Val-de-Marne, qui devait nous détailler, commenter un petit peu, voilà, l'année 2020 en termes électoraux dans le Val-de-Marne. Alors écoutez, je vous cache pas que là, je vais essayer de le joindre. Je vais essayer de lui envoyer un petit message pour lui demander de nous appeler surtout sur le bon numéro, parce qu'effectivement, n'ayant pas le bon numéro, je lui indiquais un mauvais numéro. Et donc, voilà, il faut que j'arrive à me débrouiller. Voilà, donc je vais essayer de voir comment je peux faire. Alors, je peux l'appeler sur ton numéro. Excusez-moi, je suis complètement direct. Oui, mais je n'ai pas son numéro de téléphone. En fait, je communique par Facebook. Donc, je vais lui envoyer un petit, message. Hein. Voilà. Écoutez, excusez-moi. Donc, j'essaye de faire ce que je peux. Voilà. Donc, j'essaie de me connecter et de lui envoyer un petit message. Fabien, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais si tu nous écoutes, il faut que tu m'appelles sur le 07 49 39 53 75. Sinon, je pense qu'on a quelqu'un qui est à l'écoute, qui est un chroniqueur célèbre dans cette radio, c'est Gilbert Hernandez. Notre ami incontournable, indissociable de cette radio. On l'embrasse. L'homme qui est, partenaire de tous les bons et les mauvais coups dans cette radio. Gilbert, qui a commis un certain nombre d'émissions, qui est toujours partenaire, même si aujourd'hui il a besoin un petit peu de se reposer. Gilbert, si tu nous écoutes, je vais t'envoyer un petit message. Est-ce que tu es d'accord pour nous appeler tout de suite?
On serait content de t'entendre. Hein.
Alors Gilbert, alors comment on peut faire là? Vraiment, excusez-moi, je fais ce que je peux. Il faudrait que tu nous appelles. Alors. Donc je t'envoie un petit message, Gilbert, voilà, on est complètement en direct là, complètement. Alors, donc appelle-le, 07, Gilbert, mon ami, tu as plein de choses à nous dire, Et si tu pouvais m'appeler sur le 07 49 39 53 64, ça serait super. Voilà, donc Gilbert, on attend ton appel. Et puis ensuite, nous aurons un autre intervenant qui va commenter l'actualité internationale, un chroniqueur de talent, un ami incontournable de la radio, quelqu'un sans qui Armada ne serait pas ce qu'elle est. J'ai nommé José Faure.
Ah, super.
José Faure va nous appeler tout à l'heure. José Faure nous appellera vers 19h, c'est-à-dire dans un quart d'heure. José Faure a préparé une intervention dont il m'a donné quelques petits éléments. Voilà, quelques petites. Il m'a livré quelques secrets de son intervention. Je l'ai sous les yeux. Vous connaissez José. Son intervention ne sera pas piquée des hannetons. Voilà. José va commenter l'actualité internationale. Mais en attendant, on aimerait bien avoir donc notre ami Gilbert Hernandez qui va nous parler de la crise, du rapport au travail, et puis il va nous parler aussi des questions de jeunesse. Voilà. Gilbert, si tu m'entends, si tu as reçu mon message, si tu peux m'appeler sur le 07 49 39 53 64, Gilbert, nous sommes tout ouïe et nous te prendrons à l'antenne immédiatement. Voilà, ben ça y est, voyez, voilà, Gilbert est merveilleux, on lui demande d'appeler, il appelle.
C'est génial.
Gilbert.
Oui.
Ah,
bonjour.
Mon ami, notre ami Gilbert, l'incontournable chroniqueur de la Radio Armada. Gilbert, merci de nous appeler. Voilà, alors déjà...
On t'embrasse. Hein.
Tout le studio t'embrasse, voilà. Donc non, je t'ai plus. Mets ton masque, Gilbert, parce que voilà, ça fait beaucoup de bisous et il paraît que c'est interdit en ce moment.
Oui, un peu, oui.
Gilbert, tu as beaucoup de choses à nous dire. Tu veux parler de la crise, du rapport au travail et de la jeunesse. Ben Gilbert, écoute, pour cette rétro 2020, on t'écoute.
Bah oui, tu m'as demandé d'avoir un regard sur... 2020, la rétro, et je vais proposer de traiter une question qui, moi, me paraît essentielle, et celle de la crise que nous vivons. Alors, je ne parle pas de la crise sanitaire.
Oui, on vient d'en parler, là.
Je parle de la crise économique. La crise économique, elle frappe fort, et je ne vais pas... Je ne suis pas suffisamment calé pour traiter la crise économique sur l'ensemble des aspects qu'elle peut avoir. Non,
tu es trop modeste, Gilbert.
Non. Donc elle peut avoir. Je voudrais la traiter sur un sujet qui est celui de la jeunesse. Et je pense qu'il faut que on regarde cette année avec un regard un peu plus acéré que celui qu'on a jusqu'à présent. À savoir que il y a tout un tas de gens à gauche parlent de la crise sociale. Oui. Juste raison. On a parlé d'une augmentation de 20% des titulaires du RSA, mais on a oublié, parce qu'on l'a passé sous silence, la crise et la pauvreté qui a frappé le monde étudiant, le monde de la jeunesse, de ceux qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans plus aucune ressource. Alors, ils n'ont pas droit au RSA, le président l'a refusé.
Oui.
Ils ont droit à des aides, mais on ne sait pas dans quelles conditions et comment. Mais un tas de gens, de jeunes gens, se sont retrouvés, et on ne peut pas imaginer à quel point c'est dramatique, sauf de l'avoir vécu, des étudiants qui, du jour au lendemain, des patrons ont dit, alors, quelquefois, à juste raison, quelquefois, ils ont utilisé la crise sanitaire comme un paravent pour leur propre manœuvre antisociale, qui consiste à dire aux jeunes, bah, écoutez, du jour au lendemain, votre stage, votre alternance, votre contrat payé déjà à 75% du SMIC, oui, rappelons-le, pour un temps de travail qui est un temps de travail normal, puisque c'est l'alternance en général, hein, les fameux contrats d'apprentissage si chers à notre président et à notre premier ministre actuel et le précédent, ne sont pas payés à la totalité du SMIC. On est à 75% du SMIC. Les loyers ne sont pas à 75% des loyers. La nourriture n'est pas à 75% de la nourriture. Bon, déjà, c'est difficile, c'est compliqué. Ça veut dire que des familles se serrent la ceinture pour que des jeunes étudiants puissent y arriver. Ça veut dire qu'ils ont des boulots à côté. Beaucoup sont dans les Uber Eats, dans les livreurs à vélo. D'autres sont dans les taxis. On les retrouve dans tout un tas. On les retrouvait, pardon, excusez-moi de cette erreur de conjugaison. On les retrouvait dans tout un tas de petits boulots. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Voilà, plus rien. Et je pense que les forces politiques dans lesquelles je trouver une forme de soutien ou en tout cas d'intelligence partagée, je trouve qu'ils ne mettent pas assez l'accent sur cette question, parce que c'est une question dramatique. Ça veut dire qu'on a, là, par exemple, cette année, on a 900 000 jeunes qui devaient rentrer dans le monde du travail, qui n'y sont pas rentrés, mais qui ne disposent de rien, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge, le fameux RSA, ils ont l'âge de rien, ils n'ont rien pour vivre. Rien. On voit des reportages dramatiques avec des jeunes gens qui se sont prostitués pour, y compris, pouvoir manger.
Exactement, c'est absolument dramatique, tu as raison.
C'est dramatique et c'est autour de nous. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, parce que, après tout, il y a pire. Il y a toujours pire. Mais je trouve que cette crise-là, elle est en train de mettre l'accent sur quelque chose que nous ne nous étions peut-être pas suffisamment rendu compte. C'est que le prolongement des études amène un certain nombre de gens de plus en plus tardivement à rester hors du système économique.
Exactement.
Mais ils avaient des passerelles qui leur permettaient plus ou moins de s'assurer une entrée, par la toute petite porte, mais une entrée dans ce monde économique. La pandémie a fermé cette porte. Alors encore une fois, pour certaines entreprises de manière volontaire, pour d'autres de manière subie. Et on ne sait pas, vous remarquerez qu'il n'y a aucune statistique sur le sujet, de savoir combien de jeunes gens se sont retrouvés sans boulot, etc., etc. On a des statistiques sur le nombre de morts par jour, par minute, dans les EHPAD, dans les garages, dans les placards et dans les malles à chapeau. Mais sur la jeunesse, il n'y a rien qui sort, rien. Il n'y a pas un chiffre.
Exactement.
Et quand il n'y a pas un chiffre, ça signifie que le chiffre est énorme. Et c'est ça que moi, sur lequel je pense que, sur 2020 et sur les leçons qu'on peut tirer de 2020 et de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a vu, c'est que il y a une partie de nous-mêmes, nos enfants, qui sont passés à côté de quelque chose de terrible, qui est une entrée fracassante dans la vie professionnelle par le plus mauvais des bouts, par le plus mauvais des aspects, c'est-à-dire par l'exclusion.
Exactement.
Et entrer dans la vie professionnelle par l'exclusion, c'est quelque chose d'assez, je trouve, moi, effrayant.
C'est ce qu'il y a de pire.
Et je trouve, je trouve que les forces démocratiques, progressistes, de gauche, revendicatives, syndicales, ne mettent pas assez l'accent là-dessus.
Ils sont très absentes sur cette question-là.
Voilà, je trouve que là-dessus, c'est assez dramatique. Il y a des statistiques. Alors, les seules statistiques auxquelles on peut assister aujourd'hui, c'est celle des syndicats étudiants, notamment de l'UNEF, et peut-être celle du Secours populaire, qui dit, le Secours populaire dit avoir vu augmenter de manière considérable.
Ah ben, les jeunes qui vont chercher des...
Les jeunes venant chercher des colis alimentaires.
On a vu un reportage la semaine dernière à la télé qui était assez édifiant, effectivement. Les jeunes qui disaient, c'est la première fois. J'avais jamais imaginé un jour être obligé d'aller faire la queue pour aller chercher... un paquet de pâtes et puis des boitages.
J'ai pas mis l'accent sur la nutrition qui devient catastrophique, etc., etc.
Oui, les aides. Tu parles plutôt des aides. Voilà.
Quand on peut manger des pâtes, déjà, on peut manger. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que il y a effectivement cette exclusion des jeunes du monde économique, de la vie, de la société. Mais en plus, quand ils ont accès à quelque chose, un petit quelque chose dans le cadre de la solidarité, malheureusement pour eux, d'un point de vue nutritionnel, c'est une catastrophe.
Alors Gilbert, pour finir sur une note un peu ironique, mais plutôt acide, tu n'as aucune compassion pour cette pauvre députée qui a perdu de l'argent donc par rapport à son indemnité et qui dit que pour compenser cela, elle va manger des pâtes pendant 6 mois. Je suppose que tu n'as aucune compassion pour elle.
Non, je pense que des imbéciles de ce niveau-là n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Il fut un temps où on avait dit qu'une chèvre avec une rose sur le front...
Ah oui, on mettait...
aurait été élu à l'Assemblée nationale. On est descendu en dessous du niveau de la chèvre.
On est descendu au niveau, aujourd'hui. On mettait une affiche, je cite pas le parti, sur une chèvre et il serait élu. Aujourd'hui, c'est encore pire. Toi, tu dis qu'il n'y a même pas besoin, de mettre une affiche.
C'était le PS à l'époque.
C'était le PS à l'époque,
En 81, là, à la République En Marche, j'ai lu quand même des déclarations qui sont assez effrayante.
Assez effrayant.
Je viens de grossir de conneries humaines.
Comme disait Audiard dans la bouche d'un excellent comédien, les cons ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît.
Voilà, c'est ça. Et il y en a un autre qui parlait de chef d'escadrille.
Absolument, c'est le grand Jean Gabin qui disait si les cons pouvaient voler, certains seraient chefs d'escadrille.
Voilà. Bah, je pense qu'elle est chef d'escadrille.
Elle est même chef de bataillon, on va dire. Voilà. Gilbert, voilà. Merci infiniment de ton appel.
Je t'en prie.
Nous te souhaitons, bien entendu, toute l'équipe d'Armada, la meilleure santé du monde et puis une bonne fin d'année. Et puis, évidemment, Gilbert, à chaque émission controverse, en tout cas, si tu souhaites prendre la parole, le micro, évidemment, t'es totalement ouvert. On est bien d'accord.
Je dirais simplement que je répondrai aux sollicitations qui nous sont faites dans la mesure où j'ai la compétence pour pouvoir y répondre.
Ben écoute, sur la compétence, moi, j'ai pas de problème. Sur les sollicitations, je m'en occupe. On t'embrasse tous, Gilbert. Merci beaucoup.
Allez, merci, bonne soirée. Bon bisous.
Prends soin de toi. Voilà. Alors, donc, notre ami Gilbert Hernandez, Gilbert, chroniqueur de nombre d'émissions politiques, culturelles sur cette radio, qui a pris la peine de vouloir, évidemment, étant un observateur aigu de l'actualité politique, sociale, qui a pris la peine de nous écouter et, en tout cas, de prendre la parole, de nous commenter sa vision de l'année 2020 au micro. Alors, écoutez, je vous propose qu'on écoute le deuxième titre. Alors, ce deuxième titre fait appel à un événement dramatique de cette année. C'est un hommage à Samuel Paty et à tous ses collègues, un hommage à ces hussards noirs, comme on les appelle, de la République, qui se dépensent sans compter pour permettre à nos jeunes d'avoir de l'éducation sur le chemin de la majorité. Ces gens qui se battent pour des moyens, à qui le gouvernement actuel a rendu hommage de façon, allez, on va le dire maintenant, parce qu'ici on n'a pas peur des mots, totalement démagogique. Et qui aujourd'hui, effectivement, ne peut faire que le constat de manque de moyens. Mais en plus, en dehors de ne pas avoir de moyens et de se battre pour essayer de faire leur boulot, ils sont la cible d'extrémistes, de fondamentalistes. Et donc, nous souhaitons rendre hommage à Samuel Paty, mais aussi à tous ses collègues. Voilà, Samuel Paty qui a perdu la vie, mais à tous ses collègues. Et donc, nous allons écouter le deuxième titre de cette émission, qui est Hugo Frey qui nous chante Adieu, monsieur le professeur, on se retrouve juste après.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la fin. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire. La classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Yeah. prix sont remis aux élèves, tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se lève une dernière fois, les enfants vont chanter.
Voilà, donc hommage à Samuel Paty. On a quelqu'un au téléphone. Allô ?
Oui, bonsoir.
Alors, qui est au téléphone ?
Eh bien, c'est José Faure.
Ah, José, José.
Bonsoir, José.
José, j'étais en train de t'envoyer un petit message pour te dire de nous appeler sur le bon numéro parce que je t'ai donné le mauvais numéro. José, comment vas-tu ?
Très bien, je souhaite que... Toute l'équipe aille bien aussi.
Eh ben, écoute, l'équipe va bien. Nous avons Nadia ici donc au micro, qui est notre invitée surprise. Elle est là, Nadia, qui ne rate pas une occasion d'être à la radio. Nous venons d'entendre notre ami Gilbert Hernandez donc au téléphone, qui nous a commenté l'année 2020 en termes de la crise de la jeunesse. Et toi, José, ben, écoute, d'abord, merci d'être avec nous pour cette rétro de 2020. Et donc, José, ta spécialité, c'est évidemment, c'est pas la seule, mais c'est l'international. Et donc, nous serons heureux que tu nous commentes un petit peu l'année 2020 en termes d'international. Alors, tu places comme premier choix les États-Unis. Trump dehors, évidemment, out, go back, go out, Trump. Et je vois d'ici, malgré l'éloignement, ta satisfaction. Mais dis-moi, José, avec l'arrivée aux manettes à la Maison-Blanche de Joseph Joe Biden, est-ce qu'on ne sombrerait pas un petit peu dans l'illusion d'un mieux, alors que finalement, ce bonhomme, c'est quand même pas la gauche ?
Alors, Jean-Pascal, est-ce que tu as regardé récemment Trump à la télévision ?
Ah bah écoute, malheureusement, je le subis tous les soirs.
Ah oui, comme moi, comme tout le monde. Eh bien, en le regardant à la télé, je pense que ce personnage... crise la démence. Son rictus, ses attitudes, ses cris de colère. Par exemple, l'autre jour, en annonçant les vaccins, le début de la vaccination plutôt, il disait, vous voyez, la pandémie est partie de Chine et c'est aux États-Unis que nous allons l'enrayer. Et il faisait un peu fier à bras. Alors, Donald Trump dort, out, comme disent les Nord-Américains. Mais il reste autour de lui quelques fidèles, la famille,
oui.
Quelques illuminés, comme l'ancien maire de New York.
Giuliani, voilà.
Giuliani, oui. Il peut compter aussi sur ses fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi les gueules des enfants Trump. Et moi, il me rappelle les dégâts provoqués par les amphétamines. Mais bon. Mais... ça suffit pas, ça, de dire ça. Trump, c'est surtout 70 millions d'électeurs qui ont voté pour lui. Et on ne peut pas seulement dire ce sont des bas du front.
Il n'y a pas que les rednecks, c'est ce que tu dis.
Voilà. C'est quand même inquiétant parce que c'est le reflet de la réalité de la première puissance économique mondiale. Ne nous trompons pas. Et puis, j'ajoute que Trump a réuni plus de voix en sa faveur chez les Noirs et les Latinos qu'il y a 4 ans.
C'est-à-dire qu'ils ont plus voté pour Trump que pour Obama.
Non, ils ont plus voté pour Biden, mais Mais on note qu'il y a 4% de supplémentaires de Noirs et de Latinos qui ont voté Trump par rapport à ce que, aux chiffres que Trump avait obtenus en 1976. Alors pourquoi ? Parce que on pouvait penser que les Latinos, les Noirs allaient se précipiter aux urnes pour virer Trump.
Oui.
Ben, pour moi, il y a plusieurs raisons. La première, parce que dans ces franges des populations les plus défavorisées aux États-Unis, la lassitude gagne face à un personnel politique incapable de freiner la dégradation de leurs conditions de vie.
La fameuse administration américaine.
Oui. Et en plus, ces gens soupçonnent qu'on les regarde de haut.
Oui.
Et ça, ça a un effet tout à fait pervers. C'est, en fait, c'est une sorte, en votant Trump, c'est une sorte de doigt d'honneur en direction des puissants.
Mmh.
Et j'attire ton attention, Jean-Pascal, mais est-ce que ça ne rappelle pas, est-ce que une certaine situation en France, des similitudes avec ce que nous connaissons en France ?
Tu veux parler du deuxième tour Macron-Le Pen ?
Par exemple.
Où les gens, finalement, ont voté le moins pire, quoi.
Ouais.
Alors dis-moi, José, il reste un mois, enfin un peu moins d'un mois avant l'investiture de Joe Biden. Est-ce qu'on peut d'ici là redouter de mauvais coups de la part de Trump ? Il a d'ailleurs déjà commencé.
Bah, tu as constaté, Jean-Pascal, que la présidence du milliardaire dément, hein, comme je dis, pour moi c'est le milliardaire dément, ben, il s'achève dans la rage, dans le déni, dans l'autodestruction et dans la dégradation institutionnelle.
Oui.
J'ai l'impression que nous vivons, avec les derniers jours de Trump à la Maison-Blanche, à une sorte de suicide collectif en préparation. Ça rappelle certains dictateurs, comment certains dictateurs organisaient leur propre disparition. J'exagère peut-être, mais c'est l'impression que j'ai.
Tu penses à Marcos notamment, par exemple, pour ne citer que des...
Marcos.
Oui.
Je pense à Hitler.
J'allais pas si loin.
Oui. Et je pense à d'autres, évidemment, qui ont fini avec une balle dans la tête et se cachant dans une cave.
Mmh. Hein,
comme ça. Mais pour revenir à Trump, entre recours judiciaires qui ont tous été perdus, hein,
oui.
et les parties de golf qui avaient un ridicule pendant que le pays s'interrogeait, oui. Lui, il allait jouer au golf. Mais plus grave, Trump est en train de prendre chaque jour des décisions lourdes de conséquences. Je vais en citer quelques-unes. Il a accéléré les exécutions par voie létale et électrocution, tout en se déclarant favorable à la reprise des pendaisons.
Absolument.
On exécute en ce moment dans les prisons américaines, nord-américaines, mais à un rythme effréné.
Tout à fait.
Je vais te citer un autre exemple de ce qu'il fait avant de quitter la maison d'eau. Il accorde de nouvelles concessions pétrolières et gazières pour ses proches amis. J'en ajoute encore, il passe des accords de dernière minute avec les talibans assassins d'Afghanistan. Et alors, on note qu'il donne un coup de pouce ou une série de coups de pouce au régime d'apartheid israélien de M. Netanyahou.
Oui, tout à fait.
Et j'ai entendu quelques informations sur le possible raid aérien contre l'Iran et l'accélération des forages en Arctique. Tu vois ?
Par contre, il a l'air de s'être calmé sur la Corée du Nord, ou c'est une impression ?
Oui, la Corée du Nord ne figure pas.
Ne l'intéresse plus.
Oui, il faut dire que il y a des priorités en ce moment. Hein. Par exemple, le Proche-Orient, l'Afrique.
Oui.
Mais la Maison Blanche, vous savez que, ou vous ne savez pas, mais je vous l'annonce, 40 collaborateurs de Trump ont été atteints par le virus 19.
Le Covid, oui.
Eh oui. Et la Maison Blanche sera totalement désinfectée avant l'arrivée de Biden et son équipe.
Mais il ne faudrait pas en rester là.
Et il ne faudrait pas en rester là, oui, et désinfecter les 70 millions d'électeurs qui ont voté Trump. Cela dit, rassure-toi, Jean-Pascal, hein,
oui.
Je ne fais aucune illusion. Biden sera évidemment plus présentable que l'autre furieux.
Oui.
Mais quelle politique mènera-t-il ? Déjà, j'ai entendu la gauche nord-américaine, qui lui a permis de battre Trump, la gauche commence à lui rappeler certaines promesses. Tu vois, pour me résumer, Biden, oui. C'est mieux, c'est le moins pire, mais c'est quand même l'impérialisme yankee, bon chic, bon genre, propre sur lui, pas plus.
Alors, José, sur l'international, je crois que tu as envie de parler de l'Europe aussi.
J'ai quelques mots sur la pandémie et l'Europe, parce que quand même, cette Europe, nous l'aimerions continent de paix, nous l'aimerions continent de coopération, d'échange, d'intelligence. Et qu'est-ce qu'on nous a servi ces derniers mois, notamment au plus fort du premier confinement ? Rien, rien. Pendant des mois, l'Europe était absente. L'incurie était au rendez-vous.
Absolument.
On a assisté à comme une paralysie générale. La solidarité européenne, rien. Même pendant un temps, la Commission européenne prenait ses distances avec l'Italie au plus fort de la pandémie.
Absolument.
La capacité à gérer la catastrophe, rien. L'ouverture de perspectives, rien. Il aura fallu attendre des mois et des mois avant que se dessine un début de politique européenne. Alors oui, on a dégagé des milliards et des milliards et des milliards. C'est vrai, pas tout de suite, hein, pas tout de suite, parce que payer les chômeurs à 80%, c'était pas gagné, hein. Et aider les
petits. Et aujourd'hui, d'ailleurs, José, c'est 65.
Hein. Et c'est 65 aujourd'hui, oui, mais pendant le premier confinement, c'était 80.
Tout à fait, oui.
Bon. Donc, c'est cette Europe-là qui m'a déçu. Bon, je ne me faisais pas non plus des illusions, mais je m'attendais à une réaction plus humaine. Plus solidaire. Eh bien non. Non. L'Europe est restée experte en matière de gros sous, experte en bêtises bureaucratiques, mais a montré que lorsqu'il fallait répliquer et résister aux malheurs frappant les peuples, eh bien, il n'y avait plus personne.
Ouais. Alors José, écoute, est-ce que tu as quand même quelques bonnes nouvelles ?
Eh oui, j'en ai pas mal d'ailleurs, mais bon, comme on va pas être trop long, j'en tire deux principalement. Allez, je vais vous les citer parce que ce sont deux nouvelles qui m'ont fait plaisir et qui doivent nous faire plaisir. La première nous vient d'Argentine. Avez-vous vu ces photos des dizaines de milliers de femmes argentines avec un foulard vert qui manifestaient l'autre jour à Buenos Aires et qui ont... qui sont restés toute la nuit du jeudi au vendredi de la semaine dernière devant le congrès argentin. Est-ce que vous avez vu ces photos ?
Oui, absolument. Pour une bataille très légitime.
Et oui. Et est-ce que vous avez vu ces femmes exploser de joie après l'annonce du vote de l'Assemblée ?
Malgré une féroce opposition de la droite. Hein.
Ah oui, opposition, mais enfin, quand même... Hein, dans le pays du pape François, malgré l'opposition de la droite, les députés ont voté enfin le droit à l'avortement.
Absolument.
C'est un événement considérable dans ce continent où seul Cuba reconnaît pleinement le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est vraiment un enseignement pour toute l'Amérique latine. C'est un signal, même s'il faut attendre le vote du Sénat, qui interviendra prochainement, pour confirmer le droit à l'avortement légal et gratuit pour les femmes d'Argentine.
Mais écoute, c'est une grande avancée. On peut dire que, voilà, effectivement, le bilan 2020 en Argentine n'est pas négatif. Je crois que tu avais parlé d'une deuxième bonne nouvelle, José.
Alors, c'est la Bolivie. Est-ce que vous vous souvenez aussi d'une image qui nous a frappé ? Evo Morales poursuivi, se cachant dans une province éloignée de La Paz, couché par terre, il a eu le réflexe de reprendre son téléphone portable et on le voyait couché, protégé par une famille d'Indiens.
Oui.
Photo saisissante.
Tout à fait.
Et Evo Morales, ben, ils allaient le tuer. Ils étaient partis pour le tuer. Il y avait des troupes spéciales qui s'approchaient de l'endroit où il se trouvait lorsqu'a été déclenchée une opération aérienne menée conjointement par l'Argentine et le Mexique, et ils ont réussi à le sortir de ce guépier. C'était à deux doigts. Or, la Bolivie a vécu un coup d'État d'une année, et la démocratie a été rétablie il y a quelques semaines après des élections accordant 55% au président Arce, le président Arce qui est un ancien collaborateur de Evo Morales.
Tout à fait.
Evo Morales a pu rentrer dans son pays. Et là encore, une photo saisissante, c'est lorsqu'il franchit la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, en compagnie du président argentin.
Oui, elle a fait le tour des réseaux.
Sur le pont qui permet de traverser de l'Argentine à l'Équateur, il est accueilli par des mineurs, les Indiens, des gens...
Le peuple.
Et donc, en même temps, il faut savoir que plusieurs ministres de la dictature ont préféré rejoindre leur maître, c'est-à-dire Bolsonaro au Brésil et Trump aux États-Unis.
Bah, aux États-Unis, ils vont être obligés de faire demi-tour. J'espère.
C'est pas sûr.
On verra.
Non. Mais c'est une grande leçon, Jean-Pascal, tu vois, parce que on disait l'Amérique latine retournée dans le giron impérialiste. Souvenez-vous, il y a un an de ça, on disait c'est foutu, l'Amérique latine revient à ses démons. Eh bien, ce n'est pas le cas. Cuba et le Venezuela résistent avec succès aux criminels blocus imposés par Washington. La Bolivie à retrouver le chemin de la liberté. Le Pérou et l'Équateur se préparent à des changements importants. Jean-Pascal, il faut en être convaincu, l'histoire n'est jamais achevée.
José, merci beaucoup. Pour conclure ton intervention, qu'est-ce qu'on peut, toi, personnellement, te souhaiter pour cette fin d'année ?
Ah, si tu veux me souhaiter, évidemment, comme tout le monde, je souhaite pouvoir retrouver mes enfants, mes petits-enfants, et donc pour cela que la pandémie soit enrayée. Et vois-tu, dès que la vaccination sera annoncée, et quand j'y aurai droit, j'irai rapidement me faire vacciner. Nous avons vécu tous des moments, une année difficile, une année, on dit distanciation sociale, non, distanciation physique, sans pouvoir embrasser les nôtres, les tenir dans nos bras. Enfin, j'ai très, très envie, si tu veux, si tu me demandes mon souhait, eh bien, c'est que cette pandémie s'arrête et que nous puissions retrouver une vie normale.
José, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de t'avoir au micro de la Radio Armada. Bah, écoute, on te souhaite tous, là, dans le studio, une très bonne fin d'année, ainsi qu'à ton épouse.
À Martine,
hein, voilà, qui est une amie et une interlocutrice et une actrice de la radio. Et donc, José, bah, écoute, on te donne rendez-vous en 2021 parce que, crois-moi, je n'ai pas l'intention de me priver de tes chroniques, José.
Eh bien, je te remercie et je vous souhaite à tous, évidemment, à tous les collaborateurs de Radio Armada, puis à tous ceux qui nous écoutent, une année quand même différente de celle que nous venons de vivre. À bientôt, j'espère.
Salut, José.
Merci, ciao.
Nadia, quelques mots avant qu'on passe le dernier titre musical. Quelques mots sur les éléments qui ont été proposés par José, qui ont été en tout cas détaillés par José.
Ben, il a été...
Notamment sur ce qui s'est passé...
Avec Trump.
Sur le droit à l'avortement, je pense que c'est
ouais,
une question.
Ben, sur le droit à l'avortement, moi
en
je suis
que
une
femme,
féministe.
En tant que femme, je crois que t'es féministe...
engagée, donc...
Très engagée, très
voilà,
engagée.
Même très engagée, donc oui, ça je trouve que c'est un grand pas dans l'histoire, mais c'est malheureux que... au XXIe siècle, on souffre encore de cette différence entre les droits des hommes et des femmes dans certains endroits de ce monde. Voilà. J'espère, en tout cas, moi j'espère pour le monde entier, pour les femmes du monde entier, je vous espère tous d'être libres et vraiment d'avoir cette grande liberté sans être dépendante du pouvoir masculin. Et j'ai beaucoup de respect quand je vois qu'un homme est très sensible à ses valeurs.
Et tu sais, José est fort.
Ouais, bien sûr.
Mon avis.
Et toi.
Il y a pas besoin de lui demander.
Et
José
en fait,
fort, je crois
toute ma bande de potes.
Je crois qu'il est son ADN est intrinsèquement.
Non, c'est très important.
Défenseur de la cause des femmes, et ne parlons pas de son épouse Martine.
Ouais.
Qui est une vraie militante. Voilà. Alors écoutez, je vous propose.
Joli couple.
Soit on arrive à avoir notre dernier invité qui est Jean David, qui est élu donc Génération Écologie dans l'Essonne, qui a beaucoup de choses à lui dire. Donc je viens de lui envoyer un petit message pour lui demander de nous appeler sur le 07 49 39 53 64. J'espère qu'il va le faire. On va attendre quelques secondes que je vais meubler. En espérant qu'il va nous appeler. Sinon, ben écoutez, on va peut-être écouter le troisième titre musical. Alors ne vous inquiétez pas, si entre le moment où je l'annonce et où il appelle, on le prend. Sinon, on écoute le troisième titre musical, on le prend juste après. Alors écoutez, dans l'actualité 2020, il y a eu beaucoup d'événements sociaux, d'événements politiques, mais il y a aussi quelques tristesses culturelles. Et la dernière en date, c'est notamment une grande dame. Alors, je ne parle pas de notre ami Fabie Perrier qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et à qui nous avons largement rendu hommage sur cette radio, et nous lui rendons encore hommage, Sylvie, sa compagne, voilà. Mais voilà, nous avons donc un appel, et je crois que c'est Jean David, donc on le prend tout de suite. Allô ? Allô, allô, allô ?
Oui !
Jean-David, voilà, alors écoute, on allait passer le troisième titre, on le passera après. Donc Jean-David, bonsoir, merci de nous appeler. Comment vas-tu ?
Impeccablement.
Alors Jean-David, ton résumé, on va dire, hein, de la rétro 2020, tant au niveau de l'Essonne qu'au niveau politique, au niveau de l'écologie, conférence sur le climat, etc. etc. Jean-David, on t'écoute.
Écoutez, effectivement, on pourrait être très pessimiste et puis être démoralisé avec cette pandémie. Néanmoins, ça a permis une secousse, me semble-t-il, et aussi un devoir. Je le situerai sous deux angles. En tant que responsable politique, un devoir de coopération. La compétition, c'est plus possible. De coopération sur des projets entre les habitants. On va dire que si avant la concertation, essayer de se mettre en place plus ou moins réellement, aujourd'hui, elle est devenue une évidence,
oui.
Une obligation, une nécessité, la coopération. C'est ce que disait d'ailleurs l'invité précédent, José. Concernant l'Europe, hein, ce manque de coopération.
José,
il disait un deuxième mot qui a retenu mon attention, c'est l'intelligence. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on a un devoir d'intelligence, c'est ridicule, mais on a ressenti notre difficulté à penser le monde. Il est indispensable que l'on puisse retrouver des chemins de pensée et des chemins aussi d'échange, de conversation, de débat, de discussion, de dispute, d'un foisonnement d'idées. On est sec. Et c'est, me semble-t-il, cet arrêt là, absolument invraisemblable, qui a été le premier confinement, puis le deuxième, qui essaye de nous apprivoiser avec le pire.
Oui, enfin, avec une incohérence totale, Jean-David.
Et avec, effectivement, des incohérences.
Autoconfinez-vous, allez dans les grandes surfaces, mais pas dans les. Allez dans les églises, mais pas dans les théâtres.
Voilà.
Je sais que tu es un homme d'église, Jean-David. Donc...
Voilà. Et bien, cette gestion de la pandémie en a rajouté sur cette obligation de l'intelligence. Quoi.
Alors, Jean-David, sur l'avenir. Sur l'avenir du monde, Jean-David, aujourd'hui, les questions d'écologie, les questions de climat sont au centre des débats. Et s'ouvre en ce moment donc la 25e ou la 26e conférence sur le climat qui succède aux 25 ou 24 précédentes qui n'ont abouti sur rien. Toi qui es un écologiste convaincu, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ?
Que les solutions seront des solutions locales.
Oui.
Uniquement. Ne comptez sur rien qui dépasse le coin de votre rue pour trouver des solutions.
Et donc,
il faut absolument que investir le niveau local communal. C'est ce niveau-là qui est le vrai niveau de la vie démocratique et citoyenne. Et les citoyens n'ont aucun complexe à avoir pour s'y investir. Interpeller sans complexe, allez-y, etc. Et de débattre, quels que soient les supports qu'ils utilisent, les réseaux sociaux, etc. Les maires, les élus sont en train de changer le mode d'administration de la vie quotidienne de leurs administrés.
Oui.
Incroyable. Un échange Facebook de ce matin d'un petit entrepôt, d'une pizza qui livre et qui va bientôt subir le couvre-feu et qui avertit ses clients des nouvelles règles. Eh bien, cette information est contredite, améliorée par la maire de la ville, sur Facebook, directement. Oui.
Donc là, tu penses qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit se passer ?
Oui, il faut revenir à des choses simples. Et pour faire simple, il ne faut pas dépasser le bout de sa rue. Voilà.
On va dire ça en termes économiques, C2C, consumer to consumer, consommateur à consommateur, enfin citoyen à citoyen plutôt, C2C, citoyen à citoyen. Donc on ne passe plus par les réseaux.
Ça ne se réduit pas, bien sûr que ça ne se réduit pas qu'à ça. Et le rappel des mouvements féministes de la part de José...
En Argentine,
un pays hautement patriarcal.
Oui, tout à fait.
Fait que le combat écologique aujourd'hui, c'est un combat féministe. Alors, je vais juste t'expliquer pourquoi.
Je t'en prie.
Mais que la domination humaine sans vertu. La prédation humaine sans vertu de la planète et de la nature l'a été sous une forme patriarcale.
Oui.
Il y a une jonction entre la situation catastrophique de la planète et la structure patriarcale de la société humaine, ou capitaliste en tout cas, parce qu'il y a d'autres sociétés humaines ils ne sont pas basés sur le patriarcat et la prédation de la nature. Mmh. Hein. Les peuples premiers et certaines civilisations ont décliné des modes de vie plus vertueux vis-à-vis de la planète que le nôtre. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie jonction entre le combat féministe anti-patriarcal
et le combat écologique.
Et l'écologie. Et ça dépasse le féminisme, je dirais, qui a été celle de mon enfance, parce que le féminisme est un combat qui a maintenant plusieurs décennies.
Oui, ton enfance, ton adolescence, c'était 70, c'était...
C'était Benoît de Broult, c'était 70.
Voilà. On c'était a été le MLF, voilà.
Voilà, on a été manifesté à Amiens devant le tribunal pour faire valoir que le viol était un crime, etc.
Absolument.
Bien entendu, ce combat-là doit continuer sur l'égalité des femmes et notamment l'égalité sociale. Mais le combat féministe, c'est un combat écologique parce que nous combattons la prédation des activités humaines sur la planète. Voilà.
Jean-David, oui.
Oui, voilà.
Jean-David, merci. Merci infiniment de ton appel. Bah, écoute, on ne peut que te souhaiter...
Alors, on parlera de l'Essonne une prochaine fois.
Oui, on va parler de l'Essonne une prochaine fois. Vas-y, je t'en prie.
Les écologistes se présentent aux élections départementales et régionales.
Important, oui.
Un pôle, l'ensemble des partis, pour gagner, avec les partis qui voudront bien les rejoindre et les partis de gauche, notamment. Mais c'est ce pôle écologique qui est aujourd'hui leader et qui part au combat pour gagner et les départements et la région Île-de-France.
De toute façon, Armada prévoit toute une série d'émissions, en tout cas controverses, sur les départementales et les régionales. On va inviter du monde et évidemment, tu en feras partie. Jean-David, on te remercie infiniment.
Merci à vous.
On te souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'année, une bonne santé et puis de passer ces fêtes malgré le confinement, malgré le couvre-feu, dans la joie avec ta famille et tes amis. À très bientôt, Jean-David. Bonne soirée. Au revoir. Merci.
Vous aussi.
Salut. Bon, Nadia, juste un petit mot de conclusion avant qu'on passe au titre de fermeture, de clôture de l'émission. Sur les éléments qu'a abordé Jean-David, l'écologie et le féminisme.
J'ai bien aimé sa vision sur le féminisme engagé au XXIe siècle par rapport aux sociétés patriarcales. Je trouve que vraiment il est visionnaire et la façon dont il a commenté. Ça, j'ai trouvé que c'était très pertinent parce que en fait, il faut vraiment une vraie touche féminine dans ce monde pour transformer les choses, parce qu'évidemment, ce monde a été créé sur un modèle patriarcal.
Patriarcal, bien sûr.
Et donc, par là, on a toujours essayé d'étouffer la pensée féminine, puisqu'elle est différente de la pensée de l'homme.
Mais il s'est transformé en mode patriarcal, parce que quand on regarde ce qui se passait...
Je ne sais pas s'il s'est transformé,
Quand on regarde ce qui se passait au premier temps d'humanité, les femmes avaient autant de place dans la société que les hommes.
Je ne suis pas sûre. Moi, je suis persuadée qu'on est vraiment sur une mutation, mais qu'on en est loin. Ça, j'en suis convaincue. On me fera pas dire à moi que ça y est, les hommes, ils sont tout sympas et qu'ils vont se mettre à écouter les femmes. Non, je suis convaincue.
Il y a encore du boulot.
Je pense qu'il y a énormément de travail. Je pense que l'éducation doit commencer à l'intérieur de sa maison. Ça veut dire quand on élève nos enfants. Hein. Et moi, je vois, j'ai élevé un garçon. Et malgré toute, toute la tendresse que j'ai essayé d'amener à ce garçon, et puis quelquefois il faut aussi un peu de sévérité, puisqu'un garçon ça reste un homme, donc il faut quand même le modeler un peu. Mais je trouve que c'est intéressant parce que vous voyez, il s'intéresse à des sujets qui, pour un garçon, par exemple l'affaire Dominique Strauss-Kahn, il a regardé toute sa story. Puisqu'il y a une story en ce moment à la télé sur Dominique Strauss-Kahn.
Oui, tout à fait, oui.
Et il me demandait, il me posait des questions et je lui expliquais. Et puis à un moment, il me dit, mais quand il paye la prostituée, pourquoi après elle va se plaindre? Je lui dis, alors déjà, je t'explique. Je dis, la prostituée, d'origine, elle n'a pas envie d'être prostituée.
Ben non.
J'ai dit, si elle le fait, c'est parce qu'il y a des raisons. Et j'ai dit, et ça, c'est parce que la société l'accepte. Et j'ai dit, et donc, c'est déjà là qu'il faut faire un travail. C'est-à-dire que déjà, l'homme doit faire un travail sur lui-même pour respecter la femme et pour pas... Et ensuite, je lui ai expliqué l'envers du décor. Je lui ai dit, mais heureusement qu'elles existent, parce que malheureusement, sinon il y aurait des viols. Donc déjà, on n'a pas réussi à résoudre ce grave problème de l'homme, comment qu'il puisse maintenir ses pulsions sexuelles. Alors, de là à modifier ses pulsions égotiques qui l'amènent à vouloir posséder, diriger, maîtriser la nature et après tout ce qui en découle. Alors là, il y a un boulot de titan.
Mais il faut s'y atteler.
Et puis, il faut savoir... moi, j'invite les femmes à savoir dire non, je suis pas d'accord. Non, je ne vais pas dans ton sens. Et aussi, j'invite les femmes à amener, même en pensée, ça veut dire télépathiquement, à amener à tous ces hommes une espèce de conscience, les renvoyer à leur conscience pour leur dire, écoutez, la femme qui est en face de vous peut être votre mère, peut être votre sœur, mais peut être votre fille aussi.
Absolument.
Alors, je vous souhaite bon courage, les hommes.
Alors, Nadia, merci beaucoup. Alors, j'ai commencé à annoncer le titre, donc le troisième titre musical, qui sera donc le titre de la fin. Donc, c'est une grande dame qui nous a quittés il y a quelques jours. Il s'agit d'Anne Sylvestre, chanteuse très féministe, hein. Anne Sylvestre qui chantait notamment « Clémence a pris des vacances », l'histoire d'une femme qui dit à un moment donné « C'est bon, on me dirigera plus, je fais ce que je veux ». Voilà. Alors, c'est pas le titre qu'on va passer parce qu'on est à la veille de Noël. Donc, on va passer un titre qu'elle a repris d'une chanson de Georges Brassens qui s'appelle « Le Père Noël et la petite fille ». Mais écoutez bien, c'est un titre qui est pas très connu. Il est plutôt connu chez Brassens, mais un vieux titre de Brassens, un très vieux. Écoutez-le, il est très intéressant. Vous allez voir que voilà, Brassens dans la bouche d'Anne Sylvestre, ça donne quelque chose de bien. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. On va se quitter sur ce titre. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, écoutez, je pense qu'on se retrouvera donc en 2021 pour recommencer ce cycle d'émissions. On écoute Anne Sylvestre. Le Père Noël et la petite fille, bonsoir à tout le monde.
Bye bye.
Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains sur tes hanches. Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle vie dorée sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ta grange, il a mis les mains sur tes hanches. Toi qui n'avais rien sur le dos, toi qui n'avais rien sur le dos, il t'a couverte de manteau, il t'a couverte de manteau, il t'a vêtu comme un dimanche, tu n'auras pas froid que si tôt. Il a mis l'hermine à ta manche, il a mis les mains sur tes hanches. Tous les camés, tous les émaux, tous les camés, tous les émaux, il les fit pendre à tes rameaux, il les fit pendre à tes rameaux, il fit rouler en avalanche, perles et rubis dans tes sabots. Il a mis de l'or à ta branche, il a mis les mains sur tes hanches. Tire la belle, tire le rideau, tire la belle, tire le rideau, sur tes misères de tantôt, sur tes misères de tantôt. Et qu'au dehors il pleuve, il vente, le mauvais temps n'est plus ton lot. Le joli temps des coups des franches, on a mis les mains sur tes hanches.
Jusqu'au bout.